Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
L'agriculture, la protoculture, on peut à peu près dire que ça commence il y a 10 000 ans.
Cette semaine, histoire d'agriculture.
La machine à produire de la fertilité, c'est la forêt.
De la forêt primitive aux serres de plastique, l'instinct de survie.
Et donc chaque personne qui a un petit lopin de terre, il met en place du plastique et il met dedans un Africain ou un Marocain pour travailler. Parce que c'est vraiment les seuls qui acceptent ce travail.
L'agriculture arrive en Bretagne il y a 5000 ans, peut-être même pas 4000. Alors qu'elle existe depuis 10000 ans, c'est-à-dire 5000 ans plus tôt dans le Proche et le Moyen-Orient.
Antiquité, Moyen-Âge, début des temps modernes, trois révolutions agricoles. Trois seuils où l'agriculture se modifie. C'est un paysage nouveau à la surface des sols et c'est un nouveau sous-sol qui s'appauvrit la plupart du temps ou perd de sa force initiale. C'est la lutte de l'humain et sa capacité d'invention faisant face à cette richesse primitive qui s'éloigne. De nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles régions. Parce qu'avant la révolution industrielle, elle concourt à la richesse de la grande majorité des groupes humains sur la plupart des continents, à la survie de l'espèce. L'histoire de l'agriculture est un objet central d'étude et de réflexion de la longue histoire. En choisissant d'en faire une présentation synthétique sur trois journées, en mars 2004 à la Cité des Sciences Paris-Villette, Marcel Mazoyer, professeur à l'Institut National de Recherche Agronomique Paris-Grignon, propose une première approche qui n'inclura pas les différents problèmes d'aujourd'hui. La nouvelle organisation mondiale du commerce, la faim dans le monde, la perpétuation d'un exode rural annuel estimé à une cinquantaine de millions de personnes par an. Ceci sera l'objet sans doute d'une prochaine semaine. En attendant, troisième et dernière journée, en compagnie de Marcel Mazoyer, de la jachère à la culture fourragère.
Chapitre 1. Par-delà les forêts.
Un paysage méditerranéen qui continue à se déboiser. Un nouveau système basé sur la culture céréalière concentrée sur une petite portion de territoire. Sur ce que les Latins appellent l'agère, les champs. Sur les autres territoires déboisés, les herbivores, pourvoyeurs de nouvelles fertilités. C'est le temps de la jachère. Années d'exploitation s'alternent avec années de repos. Un système appelé à durer jusqu'au Moyen-Âge, avant qu'une première révolution, celle de la fenaison, des charrettes, du foin et des étables, ne vienne transformer radicalement les techniques agricoles. Et avant qu'une seconde révolution agricole, sans doute encore plus radicale, la première des temps modernes, en coïncidence avec la première révolution industrielle, abandonne la technique de la jachère pour une production intensive. Une révolution qui portera l'économie agricole européenne et la population à un niveau économique inconnu jusque-là. C'est de là que famine et disette disparaîtront dans l'espace européen. Pour la première fois, l'agriculture nourrira tout le monde, y compris en mauvaise année. Première partie, l'Antiquité. Les systèmes céréaliers à jachère, un décor à planter, la disparition des forêts. Une situation inédite pour les peuples rompus jusque-là aux traditions agricoles des sociétés forestières. Et deux mots clés, le saltus et la gère. Le saltus, c'est la terre non cultivée, vouée à l'élevage, les prairies, des steppes incultes. La gère, c'est le champ cultivé. Marcel Mazoyer.
Alors, l'origine, c'est effectivement la fin des systèmes de culture sur rabatis brûlis. C'est-à-dire, à partir du moment où le déboisement est tellement important qu'on ne peut plus continuer à faire de la culture sur rabatis brûlis, puisque, en gros, nulle part, les arbres repoussent suffisamment longtemps et assez pour qu'on puisse continuer ce système. Donc, ça se produit, comme je vous le disais, à peu près au début de l'âge des métaux, en Occident, et quand ce système qui consiste au fond à aller jusqu'au bout de la destruction du boisement et à aller retrouver un boisement ailleurs qui a peut-être été abandonné 10, 20 ou 30 ans précédemment par d'autres villageois qui se sont eux-mêmes déplacés, mais à la fin des fins, on ne trouve plus de boisement exploitable par rabatis brûlis, il reste des boisements. Il reste la taïga, il reste les forêts d'altitude, il reste des forêts sur pente absolument inaccessibles, il reste des forêts sur les bas-fonds mouilleux où on ne peut pas vraiment cultiver, il reste des boisements sur des podzols du genre sable de Fontainebleau, il reste des boisements sur des terrains caillouteux, mais tout ça, c'est pratiquement pas cultivable. Donc, les boisements cultivables, les forêts cultivables, arrivent à être épuisées région après région, depuis l'est de la Méditerranée jusqu'à l'ouest de la Méditerranée, et puis de la Méditerranée, on va dire, jusque presque à la taïga norvégienne, suédoise, russe. Donc, arrive un moment où les changements de place ne permettent plus de continuer à survivre. Cela dit, c'est pas parce qu'un système ne fonctionne plus qu'on a nécessairement les moyens et le savoir-faire pour mettre en place un nouveau système. En effet, bien entendu, on ne peut plus cultiver les terrains en pente les plus érodés, mais on peut encore cultiver les terrains, au contraire, qui sont dans les fonds, pas trop humides, qui sont dans les revers, replats de plateaux, qui sont dans les creux du terrain. Simplement, on ne peut pas cultiver céréales sur céréales sur céréales dans un tel milieu pour plusieurs raisons. La première, c'est que entre deux céréales, l'herbe qui pousse représente une biomasse bien maigre, et que on la fasse brûler en été pour avoir des cendres, ou que on la enfouisse avec quelques outils, de toute façon, ça représente un recyclage de matières organiques et minérales qui est généralement trop faible pour entretenir des rendements en céréales suffisants. Il y a des exceptions, mais en général, c'est pas suffisant. Et même si on laisse cette biomasse inculte, c'est-à-dire les herbes sauvages, se développer entre deux années de culture, mais si on fait ça, on se retrouve devant un tapis herbacé au moment des semis d'automne, qui n'est peut-être pas suffisant pour, en le détruisant et en l'enfouissant, constituer un renouvellement de la fertilité suffisant, mais qui est bien suffisant pour être un vrai stock d'herbes sauvages qui va nuire terriblement à votre culture de céréales qui suit. C'est-à-dire que laisser la jachère pour reconstituer la fertilité, un, c'est insuffisant. Deux, laisser la jachère, c'est extrêmement dangereux parce que c'est le meilleur moyen de favoriser la multiplication des herbes inutiles, qu'on appelle du coup les mauvaises herbes, parce que si elles sont encore présentes pendant la culture, eh bien, elles vont être des concurrents terribles et inutiles pour l'homme de la culture qui sont les céréales. Donc, quelque part, cette jachère, elle est très ambiguë, elle ne reconstitue pas une fertilité suffisante et en même temps, c'est une machine à fabriquer, à réduire la fertilité utile. Donc, le système est littéralement en crise. Si on ne trouve pas un moyen de défricher correctement cette jachère, de lutter sérieusement, efficacement contre les mauvaises herbes, mais ce moyen, on va le trouver parce que les civilisations de la haute antiquité moyenne-orientale, on va dire, c'est-à-dire de la Mésopotamie, de l'Indus et de la vallée du Nil, qui sont bien antérieures à ce dont nous parlons. Hein. Ça date de moins 5000 par rapport à aujourd'hui, le début des civilisations des grandes vallées dont on vient de parler. Et ce dont nous parlons, c'est quelque chose qui se passe il y a 3000 ans, hein. Donc 2000 ans après. Eh bien, ces civilisations de la haute antiquité ont eu le temps, ou ont mis au point effectivement des nouveaux outils de travail du sol, qui sont évidemment différents des haches et des herminettes, qui sont en gros les houes et les bêches. C'est-à-dire des lames métalliques, ou en tout cas des lames ferrées, qui sont très solidement emmanchées à un long manche qui sert de bras de levier, et qui, dans le cas de la houe, est perpendiculaire, et dans le cas de la bêche, est dans le prolongement de la lame. Et ça, ce sont les outils à labourer. Labourer, synonyme de labeur, labour à bras, donc. Dans l'Antiquité, il n'y a de labeur que à bras. Et si vous voulez nourrir une famille, il faudrait labourer au moins chaque année, avant les semis, il faudrait labourer au moins 3-4 hectares de terre, multipliés par 3-4 quintaux nets, hein, 5 quintaux bruts, moins les semences, moins les pertes, ça fait 3 quintaux nets, hein, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant, si on y réfléchit bien. Et il faut avoir au moins 3-4 hectares de céréales, si on veut avoir 10 quintaux de grains pour nourrir 4-5 personnes. Bon, eh bien, en gros, si on fait ça à la bêche ou à la houe, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui va rendre finalement nettement plus viable ce système de culture céréalière une année sur deux, qu'on ne peut pas entièrement labourer à la main? Eh bien, c'est le premier grand instrument de traction animale qui vient de Mésopotamie, où il a été mis en place il y a 5000 ans, peut-être plus. Il y a des gravures qui datent de 5-6000 ans et qui représentent des arrères, et pas seulement des arrères, mais derrière la pointe de l'arrère, il y a même un petit semoir et qui sème directement dans le petit sillon ouvert par l'arrière. Alors, comment on fait pour éliminer les plantes à graines? Vous venez de faire 9 mois de céréales, vous récoltez vos céréales en juin-juillet, et bien, dès les premières pluies d'automne, les mauvaises graines, les graines de plantes annuelles de la jachère, vont germer. Une jachère, ça n'a pas grand-chose à voir avec une terre qui se repose. C'est un contresens absolu. C'est un contresens absolu aussi de penser que c'est la biomasse des herbes sauvages pendant l'année de jachère qui renouvelle la fertilité, puisque vous passez votre temps à l'empêcher de se développer, cette biomasse. C'est parce qu'on fait pâturer les jachères qu'on renouvelle la fertilité des céréales. Tout ça, c'est des âneries qui n'ont pas de sens. Il suffit de suivre la circulation sur le champ de la biomasse et de la matière minérale pour comprendre que tout ça, c'est des vieilles lunes qui... absurdes, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce système-là pendant 15 mois? Eh bien, parce que il faut effectivement renouveler la fertilité des terres à céréales. Et puisque la biomasse de la jachère n'est pas suffisante pour renouveler cette fertilité, eh bien, la solution qui a été trouvée dans l'Antiquité pour renouveler la fertilité des terres à céréales pendant cette année de jachère, eh bien, c'est de emmener tous les jours le bétail aux heures où le bétail mange, et le ramener, en tout cas avant qu'il ait laissé ses déjections, aux heures où il a le plus grande chance de restituer ce qu'il a mangé comme myobase, enfin en tout cas les 90% de ce qu'il a mangé, de le ramener sur les jachères. C'est très intelligent. Mais c'est pas un système d'une efficacité fantastique, parce que bon, nul n'empêchera les animaux de restituer quelques déjections sur le saltus et le long des chemins pendant qu'on le déplace. Et puis, nul n'empêchera les animaux de consommer quand même un peu d'herbe folle sur la jachère et puis de restituer ce qu'ils auront mangé ailleurs. Donc on peut dire que, en gros, la biomasse qu'on apporte sur la jachère chaque jour, c'est peut-être de l'ordre de la moitié de ce que les animaux ont mangé à l'extérieur. Le bilan net, c'est peut-être la moitié de la biomasse que consomme un herbivore dans ses 24 heures. C'est pas énorme. Et donc, la jachère, avec cette règle de conduite qu'on connaîtra jusqu'au début du XXe siècle, qui s'appelle le droit de vaine pâture, et donc, qu'on trouve ou qu'on trouve pas dans la littérature antique une explication de ça, ne signifie pas que ça n'existe pas. Parce que les gens qui parlent de l'agriculture antique, ils parlent des terres à blé, ils parlent de la jachère, puis ils parlent de la vaine pâture de la jachère. Mais ils parlent très peu de ce qui se passe ailleurs et de ce qui est ailleurs. Il faut vraiment avoir vu 50 fois dans sa vie des systèmes à jachère et culture attelée légère. Et si vous voulez en voir, vous allez en Éthiopie, vous alliez ou vous allez encore en Afrique du Nord, au Portugal en 1970, etc. On voyait des systèmes de surveillance. Vous en voyez dans tous les pays de colonisation ibérique, c'est-à-dire en Amérique latine, dans tout un tas de zones, vous voyez des systèmes à jachère qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que je viens de vous dire. Et il n'y a pas un paysan travaillant dans ces conditions qui ne sait pas qu'il faut bien conduire ses bêtes au pâturage, d'abord pour qu'elles se nourrissent, puis qu'il faut bien les ramener au bon endroit où il faut et au bon moment pour en tirer le meilleur parti. Autrement dit, il y a une espèce de grande ignorance qui s'est développée à l'époque moderne sur la vraie logique de ces systèmes. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est la jachère, c'est pour que la Terre se repose. Je ne vois pas pourquoi la Terre se reposerait. Ça ne se fatigue pas, la Terre. C'est des concepts qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas un être vivant, la Terre, même si on écrit ça partout. La Terre, c'est de la matière inerte, des roches, plus ou moins émiettées, hein, plus ou moins fines. C'est de la matière organique morte, brute ou humifiée, des acides aminés, et c'est de la matière minérale. Et dans un sol, dans ce substratum, il y a des êtres vivants qui ne sont pas que les plantes cultivées ou que les mauvaises herbes, mais qui sont aussi tout un tas de vers, de micro-organismes qui sont dans le sol. Ce qui est vivant dans un sol, c'est les plantes et les animaux, micro ou macro-plantes ou micro-animaux. Mais le sol n'est pas un être vivant, ça se fatigue pas, ça meurt pas, etc. Par contre, ça peut être plus ou moins fertile. Et ça dépend, finalement, de son stock de biomasse morte, de l'humus, et de la minéralisation de l'humus, et donc de la manière dont on renouvelle cette fertilité additionnelle fantastique qui est le produit historiquement constitué de la vie. Et comme on a détruit la biomasse forestière, et que le renouvellement périodique de la biomasse forestière, évidemment, ne marche plus dans ce système, eh bien, on va exploiter la fertilité résiduelle un peu triste que sont les pâturages périphériques. Seulement, il faut inventer tout un système pour faire ça.
De la jachère à la culture fourragère. Chapitre 2. Précieuse putréfaction.
Parce que la forêt a disparu sous la main de l'homme, parce que la population augmente, parce que les climats ne sont pas les mêmes selon les régions et que l'accroissement des différences est directement relié à l'extension des zones d'herbage, l'agriculture est appelée à se transformer. Cette transformation va s'implanter dans l'Europe que nous connaissons, celle de nos régions, obligée d'inventer de nouveaux systèmes adaptés aux particularités climatiques. Marcel Mazoyer.
Les systèmes sans jachère, donc, se développent depuis l'Antiquité et ils durent dans les régions méditerranéennes jusqu'au XIXe siècle. Cela dit, à partir de l'an 1000 environ, dans la moitié nord de l'Europe, c'est-à-dire dans les régions tempérées froides. Le pourtour méditerranéen, c'est les régions tempérées et chaudes. À partir de l'an 1000, dans la moitié nord de l'Europe, un nouveau système qui est reconnu généralement par un système avec la charrue au lieu de l'arrière, système à jachère et culture attelée lourde, des régions tempérées froides, donc de la moitié nord de l'Europe, et qui constitue ce qu'on appelle de plus en plus la révolution agricole du Moyen-Âge. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les systèmes antiques marchaient très mal dans la moitié nord de l'Europe, pour une double raison. La première de ces raisons, c'est que la jachère se développe de manière plus importante que dans la moitié sud. Ça se densifie beaucoup plus vite que dans les régions méditerranéennes. Il y avait une première grosse difficulté, c'est que c'était difficile de nettoyer les jachères de leurs mauvaises herbes, de travailler les jachères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le transfert de fertilité par parquage de nuit marchait, ça va vous paraître bizarre, mais beaucoup plus mal dans une région tempérée froide que dans une région tempérée chaude. Pourquoi ? Parce que dans une région tempérée chaude, dès les premières pluies d'automne, l'herbe pousse, il pleut et il fait encore bon. Et pendant l'hiver, une région méditerranéenne, il n'y a pas de vrai arrêt de la végétation. Il y a un vrai ralentissement de la végétation, Mais il n'y a pas arrêt. Et en général, votre saltus, il n'est pas couvert de neige dans les régions tempérées chaudes. Donc, votre saltus produit beaucoup à l'automne et il continue de produire un peu pendant l'hiver. Et alors, au printemps, il explose, grande production d'herbes au printemps, et puis ça se continue jusqu'au début de l'été. Et en été, région tempérée chaude, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a un arrêt de la végétation pendant l'été. Alors que dans les régions tempérées froides, il y a arrêt de la végétation pendant l'hiver. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un arrêt de la végétation pendant l'été dans les régions tempérées chaudes, mais les herbes qui n'ont pas été consommées au printemps, parce que les bêtes étaient pas assez nombreuses pour tout manger, ces herbes, elles restent sur pied et sèches, et elles sont pas terribles à manger pour les animaux, mais elles sont encore relativement consommables. D'autre part, les saltus méditerranéens sont occupés par des maquis ou des garrigues qui restent verts pendant l'été. Donc la période creuse de production fourragère dans les régions méditerranéennes, elle est relativement surmontable par les réserves d'herbes sur pied et par la perpétuation de la végétation arbustive qui reste verte pendant cette période. De plus, pour les territoires où vraiment ça suffisait pas, il y a généralement à quelques dizaines de kilomètres ou même quelques centaines de kilomètres de là, il y a des régions accidentées où on peut conduire le bétail pendant l'été, pendant la période creuse. Parce qu'il fait bon au début de l'été et parce qu'il fait encore bon à l'automne, on peut emmener ces bêtes et les ramener. Et donc, au fond, on emmène les bêtes qu'on a en trop pendant la période creuse, on les emmène en altitude, et donc on a en permanence tout le bétail nécessaire pour manger tout ce qui est disponible sur le saltus, donc toute la biomasse récoltable sur le saltus pendant 365 jours par les animaux, et si on met des vaches, des ânes et des moutons et des chèvres, il n'y a plus rien à manger. Elles vont vous manger 100% des unités fourragères produites pendant vos 365 jours. Grâce au régime de pousse, et c'est comme ça, et grâce aux possibilités de transhumance. Donc, toute la production d'herbes du saltus est consommée, du saltus rapproché, proche des céréales, est consommée et transférée. Tandis que dans un climat tempéré froid, eh bien, s'il y a un excès d'herbe pendant à l'automne, il n'est pas consommable pendant l'hiver, parce qu'il pourrit ou il est couvert de neige. Donc l'étiage fourrager de l'hiver n'est pas compensable, naturellement. Et vous ne pouvez pas faire de transhumance à l'automne, partir à l'automne dans les régions méditerranéennes, en traversant les Alpes ou les Pyrénées, et puis revenir au printemps. Et donc, on ne peut nourrir sur un saltus, sans faire de stock de foin, on ne peut nourrir sur un saltus de région tempérée froide qu'un chargement en bétail extrêmement faible, de l'ordre de 1 mouton à l'hectare de saltus, alors que la production d'herbe dans l'année, c'est de quoi nourrir 4 ou 5 moutons, c'est-à-dire de quoi nourrir une vache. Donc les trois quarts de l'herbe produite dans une région tempérée froide sur un saltus, les trois quarts de l'herbe sont perdus. Elles sont perdues et non consommées. Donc quelque part, le système antique, l'arrérage, le système antique, la transhumance, ne marche pas dans les régions tempérées froides. Alors, on assiste depuis à peu près le début de notre ère à toute une série d'inventions qui sont toutes situées, d'innovations, qui sont toutes situées dans la moitié nord de l'Europe, qui tendent à compenser, à corriger ces insuffisances du système.
Invention, détournement de la fatalité, exploitation de l'intelligence au profit de l'adaptation au milieu ambiant. La survie de l'espèce passe par là et conditionne le tout. La première des inventions est la faux. Grâce à elle, on vient à bout de l'excès d'herbe du printemps ou de l'automne. Mieux, on capitalise l'herbe coupée en la faisant sécher plutôt qu'elle ne pourrisse sur place. Elle sera donnée au bétail en temps opportun, été trop sec et naturellement en hiver. Elle sera donnée dans les étables que l'on a désormais construites pour le bétail. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là. Marcel Mazoyer.
Ça marche beaucoup mieux, mais problème. Qu'est-ce qu'on fait des déjections animales? Elles sont pas sur la jachère, là. Elles sont dans le nouvel abri. Et une déjection animale bovine en hiver, c'est un mélange de bouse déjà bien liquide et d'urine encore plus liquide. C'est absolument immanipulable. Vous n'êtes pas dans le Sahel, vous n'êtes pas en Éthiopie, vous n'êtes pas dans une région méditerranéenne où il suffit de balayer un peu ça, ça va sécher. Non, vous êtes dans la bouse et vous êtes dans le lisier. C'est pas de la bouse, c'est un mélange de bouse et d'urine. Vous allez crever dedans, hein, si vous n'avez pas un moyen. Eh bien, il faut recueillir tout ce qu'il y a comme richesse organique et minérale dans ce lisier. Il faut un absorbant et un matériau qui permet de manipuler ça. Et ce matériau, c'est la litière, c'est-à-dire de la matière organique brute, des feuilles, des genêts, des fougères, que vous mettez sous le derrière des animaux, et non seulement ça vous absorbe tout ce qui est liquide, enfin le maximum, donc l'azote qui est là, tout ça, qui est en solution dans l'urine, va être stocké dans votre fumier, et en plus vous emballez la matière organique fluide, et puis ça se pousse avec une pelle, ça se ramasse avec une fourche, ça s'empile, d'abord dans l'étable, ensuite derrière l'étable, à condition d'avoir une brouette, et ce fumier, il faut s'en débarrasser, sinon vous allez, de toute façon, on sait qu'il faut le mettre sur la jachère. Mais il faut aussi s'en débarrasser, sinon vous mourrez dans un monceau de fumier. Et donc il faut réutiliser la charrette pour transporter tonne après tonne ce fumier sur les jachères. Seulement, calculez, pour nourrir une vache pendant un hiver, une vache c'est 3000 unités fourragères, hein. 3000 fois l'équivalent calorique d'un kilo de grain, hein. Un hiver, 6 mois, c'est 1500 unités fourragères. Mais 1500 unités fourragères en foin, le foin c'est 0,5 unités fourragères au kilo, il vous faut 3000 ou 4000 kilos de foin. Donc pour une vache qui passe l'hiver à l'étable, c'est 3 tonnes ou 4 tonnes de foin. Pour que ces déjections soient emballées dans de la matière organique morte, c'est 2, 3 ou 4 tonnes de litière. Et quand vous avez ça à la fin de l'hiver, c'est 10 à 15 tonnes de fumier par hiver. Une vache de 500-600 kilos, les vaches de l'époque c'était plutôt 300 ou 400, donc deux petites vaches égale une d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est ça. Alors ça veut dire que pour chaque vache ainsi traitée, vous avez 10 à 15 tonnes de fumier qu'il faut trimballer sur aller-retour tout ça, 10 kilomètres. Donc c'est 150 tonnes kilomètres. Vous n'allez pas faire ça sur votre tête ou par bas, c'est absolument impossible. Ce système, le renouvellement de la fertilité par stabulation d'hiver et fumier, ça n'est possible que si vous avez des charrettes. Et couper une telle quantité de foin, ça n'est possible que si vous avez des faux. Donc, la révolution agricole du Moyen-Âge, c'est d'abord la faux. Parce que sinon, c'était à la faucille. Bonjour les dégâts, si vous avez 5 vaches, multiplié par 4 tonnes de foin chacune. Ok. Bon, ça n'a pas de sens. C'est très clair qu'on est en train de faire une exploitation qui est une exploitation à récolte de fourrage, à transport lourd. C'est pour ça que j'ai dit culture attelée lourde. Une exploitation élémentaire devient une entreprise de transport lourd. Et à travers champ. Parce que le foin, il faut aller le chercher dans le champ. Et le fumier, il faut le transporter dans le champ. C'est pas sur des autoroutes ni des voies romaines. Donc c'est du transport lourd interne. Et si vous avez 10 ou 15 tonnes de fumier par vache et par hectare de jachère, eh bien, pour enfouir 10 ou 15 tonnes de fumier sur un hectare, il faut faire du labour à bras. Et du labour à bras, vous ne pouvez pas labourer à bras toutes vos jachères. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ce système, si vous n'avez pas une machine à enfouir 10 ou 15 tonnes de fumier par hectare de jachère, vous ne pouvez pas faire marcher ce système. Donc, la charrue est devenue absolument indispensable. Eh bien, la charrue, elle a été inventée à peu près en même temps que la faux, dans la moitié nord de l'Europe. Personne ne sait exactement où. Ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ça n'avait aucune raison de naître dans une région méditerranéenne, que ça n'y est pas né et que ça ne s'y est même pas répandu avant le 19e ou le 20e siècle. Par contre, toutes ces innovations apportaient un petit mieux au système. La charrue, elle permet, même s'il n'y a pas de fumier, quand même de mieux labourer. Dans la moitié nord, il faut labourer un peu mieux. La faux, toute seule, ça permet quand même un peu de stocker de fourrage et de garder un peu plus d'animaux. Alors, une fois que tout ça est rassemblé, Par contre, on a vraiment un changement général des pratiques agricoles.
De la jachère à la culture foragère. Chapitre 3. Ça s'organise.
À la faux s'est ajoutée la charrue. À la charrue s'ajoutera le joug. Aux bœufs, aux vaches, aux chevaux, on ajoutera les fers. On est entré dans l'époque de la culture attelée lourde. Une agriculture de plus en plus élaborée, aux techniques sophistiquées, émerge peu à peu en Europe du Nord. Et les productions et le bétail et la richesse de se multiplier. À cet accroissement de l'agriculture et cette amplification des techniques vont s'adjoindre désormais une accélération industrielle. L'âge de fer entre en scène. Marcel Mazoyer.
Une fois que tous les éléments constitutifs des nouvelles techniques vont être disponibles, ce qui se produit à peu près au 9e siècle de notre ère, tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles techniques qui ont été inventées ici et là dans la moitié nord de l'Europe entre le début de notre ère et on va dire l'an 1000 sont à peu près disponibles vers le 9e siècle. Et ce qu'on voit, pas sur le moment, mais ce qu'on voit vers le 10e, 11e siècle, eh bien, c'est qu'il y a des endroits où le nouveau système est pleinement constitué. C'est-à-dire que on voit sur les gravures, les descriptions, on travaille avec des faux, on travaille avec des charrues, on a les animaux à l'étable pendant l'hiver, on fait du fumier, on va chercher de la litière, on transporte le fumier, on utilise les charrues, on ferre les animaux, enfin, tout est là. Tout était apparu, mais de manière discontinue et échelonnée dans le temps, et puis à un moment donné, tout est là. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que ça va se répandre dans toute la moitié nord de l'Europe. Seulement, comment? Bien, curieusement, ça ne se passe pas d'abord dans les endroits où était installée et bien installée la culture attelée légère. On voit que le nouveau système, il se développe d'abord dans des endroits qui n'étaient pas cultivables par la culture attelée légère. Exemple, les bas-fonds marécageux, terre trop lourde pour être arérée et terre trop lourde pour être cultivée si on n'y met pas de la matière organique, etc. Et on voit d'abord que quand dans un village ou dans une région, il y a une petite zone un peu mouilleuse ou marécageuse, on voit que le nouveau système va gagner du terrain sur ces terres, au fond, incultivables avec l'ancien système. On voit aussi que si autour d'un village, il y avait des terres planes, mais trop sableuses et donc trop maigres pour fonctionner avec le système à culture attelée légère, on voit que c'est mis en culture, tout simplement parce que le nouveau système avec le foin et le fumier, ces terres qui étaient trop maigres pour être cultivées en culture attelée légère, elles sont cultivables en culture attelée lourde. Et puis on voit surtout dans le Châtillonnais, premier plateau et deuxième plateau du Jura, Bavière, dans les Vosges, dans le Morvan, etc., on voit que les régions d'altitude, où il y avait plus de 6 mois d'hiver, et où c'était impossible de nourrir le bétail pendant l'hiver, et qui donc étaient non cultivées, qui étaient des déserts boisés, où il y avait peut-être quelques cultivateurs sur un bâti brûlé ou quelques brigands, mais c'était pas des zones occupées, c'était les grands déserts. Eh bien, on voit que ces plateaux d'altitude, pratiquement incultivables en culture attelée légère, sont cultivables en culture attelée lourde, évidemment, à condition de faire du foin, de nourrir les bêtes. Et on voit que ces terrains-là vont être déboisés, soit par des paysans, soit par des seigneurs, soit par des monastères, qui vont littéralement coloniser ces terres vierges qui existaient encore, qui étaient incultivables jusque-là, qui existaient encore au Xe siècle. Et c'est ce qu'on appelle les grands défrichements. Et une fois que ces grands défrichements, on va dire, de proximité, sont faits par les gens du lieu associés ou indépendamment les uns des autres, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des grandes entreprises de colonisation du nord-est de l'Europe, de toute la zone où, effectivement, les hivers sont de plus de 6 mois. Prusse orientale, Pologne du Nord, Lituanie, etc. Et là, qui y va? Les chevaliers teutoniques, les chevaliers porte-glaive et quelques autres. Et comment c'est possible? Et pourquoi c'est eux? Parce que d'abord, Il faut une certaine puissance militaire pour occuper ces terrains qui sont soi-disant vierges, mais où il y a quand même des Slaves qui font de la batibrulie ou qui vivent misérablement en culture attelée légère, ou qui essayent peut-être eux-mêmes aussi de passer à la culture attelée lourde. Mais le problème, c'est que on ne peut pas coloniser des régions entières, on ne peut pas convertir toute cette ancienne agriculture antique, d'ailleurs, en culture attelée lourde, si on n'a pas, si on ne produit pas 10 fois plus de fer qu'avant. Parce que maintenant, vous aviez, mettons, un chevalier pour 10 paysans, avant, mais maintenant, un paysan, il use autant de fer qu'un chevalier. Donc, la révolution agricole, elle ne peut pas se développer si on ne multiplie pas par 10 la production de fer de l'Occident. Et finalement, ces monastères, c'est quoi ? Ben, ce sont des multinationales sidérurgiques. Si elles n'arrivent pas et développent pas la sidérurgie, si elles n'ont pas les moyens de mettre en place des artisans qui feront les charrues, les charrettes, etc., qui forgeront tout ça, des maréchaux ferrants, s'il n'y a pas la sidérurgie et les artisans dans les villages, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas de nouveau système. Autrement dit, c'est des entreprises de colonisation, mais c'est aussi des entreprises qui mènent à bien une révolution industrielle, que certains appellent la révolution industrielle du Moyen-Âge, hein, c'est pas une invention de ma part, et une révolution artisanale sans les clés. Ça ne peut pas marcher.
Il semble que tout soit appelé à se transformer. Une évolution créant ici et là de nouvelles nécessités. Une démographie évoluant, liée à une agriculture rendue plus performante, elle-même se reposant sur une révolution industrielle, plus on avance, plus se complexifie l'organisation humaine, dont Marcel Mazoyer nous précise à présent un nouveau chapitre, avec le peuplement des régions périphériques.
Alors, dans les régions anciennement cultivées, c'est moins facile. Parce que les régions anciennement cultivées, vers l'an 1000, elles sont un peu surpeuplées et à bout de souffle. Et c'est difficile, dans une région surpeuplée et où les gens sont pauvres et souvent asservis, c'est difficile de transformer l'ancien système en nouveau système. D'abord parce que l'ancien système marche plus ou moins, c'est moins intéressant et c'est moins rentable de changer de système, même si ça l'est. Et donc ça se produit beaucoup plus tardivement. Et en fait, qu'est-ce qui va produire la conversion des régions centrales ? Eh bien, on s'aperçoit que c'est quand la conversion des régions périphériques a eu lieu. Pour peupler ces régions périphériques, il a fallu affranchir les serfs. Il a fallu que le trop-plein de personnes qui existaient dans les anciennes régions soit libéré pour aller coloniser les nouvelles régions, où on leur fait d'ailleurs des régimes de faveur, qui ne sont pas du tout le servage, on les installe comme métayers ou comme fermiers, ou comme censitaires, ce qui est quand même tout à fait autre chose que le servage. C'est-à-dire que pour les attirer sur les nouveaux territoires, on leur promet tout simplement la libération. Eh bien, ce mouvement de colonisation vers l'extérieur et de libéralisation des serfs fait que, petit à petit, au centre, c'est plus la même chose. Il n'y a plus de serfs, de moins en moins, et si on veut les maintenir en esclavage, ils fichent le camp dans les zones de colonisation. C'est-à-dire que l'expansion du nouveau système à l'extérieur, en fait, allège la population des régions centrales et affranchit petit à petit cette population. Finalement, ce qui semble bien avoir donné le coup de grâce aux anciens systèmes, c'est tout simplement parce que les nouvelles régions productrices, en culture attelée lourde, avec tous les avantages de la culture attelée lourde, qui est, même sur des terres plus difficiles, beaucoup plus productives que l'ancien système, eh bien, c'est tout simplement que ça provoque une baisse du prix des céréales partout, au XIe et au XIIe siècle. Et la culture attelée légère n'est plus rentable, même sur les bonnes terres. Et donc, ils sont obligés. Il faut bien voir ce que font les monastères, il faut bien voir cette nouvelle sidérurgie, il faut bien voir ce nouvel artisanat, il faut bien voir ces paysans qui utilisent maintenant autant de fer qu'un seigneur, et il faut le renouveler assez souvent, et qui ont un niveau de capital par paysan. C'est énorme. Une charrue, une charrette, une stabulation, 4 vaches là où il y en avait une, etc. C'est énorme. C'est un décuplement du capital d'exploitation. Cela dit, ce système a des vraies limites, parce que comme n'importe quel système, c'est pas parce qu'on nourrit 5 fois plus de vaches qu'on va avoir, on va dire, 5 ou 6 ou 7 fois plus de déjections animales sous forme de fumier, et que grâce à ça, on va pouvoir doubler ou tripler les rendements en céréales et étendre même les terres à céréales au détriment des pâturages.
Je dis en passant que l'ancien Saltus et les anciens pâturages, évidemment, maintenant, ils sont divisés en deux. Une partie qui reste en pâturage et une autre moitié qui est en prairie de fauche. Donc, on passe du Saltus à une, ou du pâturage, tout simplement, ancien, antique, on passe à une partition du territoire entre les pâturages qui restent des pâturages et qui sont pas fauchés et les prés de fauche qui occupent à peu près. Donc, l'écosystème cultivé n'est plus du tout le même qu'avant. Les terres labourables sont plus étendues, le saltus est plus réduit, le saltus est divisé en deux parties exploitées totalement différemment, simple pâturage sur une moitié, on va dire, et prés de fauche sur une autre moitié, 4-5 fois plus de bétail, 4-5 fois plus de gens, l'écosystème, c'est un autre. Il n'y a pas d'ordre éternel des champs. Hein. Et entre l'agriculture antique et l'agriculture du Moyen-Âge, il y a un changement de paysage, de population, de méthode, d'outillage, ça n'a... Sauf que l'un est l'héritier de l'autre. Et sauf que ça se ressemble un peu quand on n'y connaît rien. Mais si on y connaît quelque chose, ça n'a, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est, il y a autant de différence qu'entre une machine à vapeur et un moteur à explosion. Hein. C'est deux systèmes différents. Et changer de système, et en plus changer de système social, on l'a dit au passage, si ça s'appelle pas une révolution agricole et sociale, je sais pas ce que ça veut dire révolution. Sans doute ça veut dire on se bat, quoi. Ben si c'est ça que ça veut dire, alors on n'emploie plus ce mot-là. Hein. Il est pourtant bien pratique.
De la jachère à la culture foragère. Chapitre 4. Agriculture et politique.
À ce moment du récit, l'histoire de ce qui n'aura été jusqu'à présent qu'une évolution des techniques, mais dont on mesure la part essentielle de construction des civilisations, s'apprête à croiser une autre histoire. L'histoire politique. Histoire des luttes et des conflits en vue de l'acquisition des terres et des nouvelles richesses. C'est la mise en place d'un nouvel ordre militaire dans l'Europe médiévale. Une histoire politique qui s'agrège à la couche précédente, en n'empêchant pas toutefois la première de poursuivre son évolution technologique. Marcel Mazoyer.
La crise du XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle, qui voit la population européenne s'effondrer de moitié, si ce n'est des trois quarts, dans certaines régions, eh bien, elle n'est pas uniquement due à une espèce de surexploitation qui serait liée à l'accroissement trop important des bouches à nourrir et du bétail. C'est pas exactement ça. Le problème, c'est que dans sa phase d'ascension, le nouveau système se développait plus vite que la population et produisait des surplus assez importants. Il en fallait de toute façon, puisqu'il fallait la sidérurgie, puisqu'il fallait l'artisanat, puisqu'il fallait développer les nouveaux villages, etc. Donc il y avait une accumulation d'activités non agricoles. Mais la société, la seigneurie, l'église, toute la partie de la société qui vivait des prélèvements sur les activités agricoles, avait à sa disposition une société agraire qui produisait de plus en plus et plus que ce que les paysans dont la population augmentait pouvaient absorber. Donc il y avait un espèce de surplus croissant qui a donné matière à cette explosion des villes au Moyen-Âge. Les villes antiques s'étaient plus ou moins effondrées à la fin de l'Empire romain et c'était pas vraiment reconstitué depuis. Au Moyen-Âge, dans cette période 10e-13e siècle, les villes européennes se reconstituent et reprennent de l'importance. L'urbanisme se développe, et puis, quand on ne sait pas quoi faire, je dirais, entre guillemets, de tout ce surplus et de toute cette capacité d'investissement, on peut se lancer, d'une manière ou d'une autre, dans des investissements somptuaires extraordinaires. Les châteaux commencent à fleurir, les cathédrales, les monastères, tout ça Ça demande beaucoup de travail, et les gens qui travaillent là, faut bien les nourrir, donc ça demande des prélèvements de plus en plus importants sur la population. Mais il se passe un phénomène supplémentaire qu'on peut absolument pas passer sous silence. C'est que vers la fin de cette période, soit que les tensions commencent à se manifester, parce que la croissance agricole commence à plafonner, soit que ces surplus de plus en plus importants et donner un certain appétit à certains acteurs qui étaient devenus très discrets dans la phase historique précédente, comme les royautés ou les grands princes d'Occident, eh bien, on s'aperçoit que, les difficultés qui naissent provoquent des conflits entre paysans et seigneurs on peut pas continuer de prélever un surplus croissant quand la production plafonne, que la population continue d'augmenter, etc. Et donc, on s'aperçoit que il y a des disettes qui réapparaissent à la fin du XIIIe siècle. On s'aperçoit qu'il y a une résistance paysanne et des jacqueries qui éclatent un peu partout. Les seigneurs, les féodaux, ils sont armés et organisés pour réprimer des soulèvements locaux dans leur fief. Mais ils sont pas armés et organisés pour réprimer des soulèvements qui commencent à se produire un peu partout en même temps et qui tournent en jacquerie régionale, voire nationale, de grande ampleur. Donc, l'organisation politique et militaire de l'Occident féodal ne peut pas, n'est pas en mesure, ne correspond pas au type de nouvelles guerres paysannes qui sont en train de se développer et qui n'avaient presque pas existé pendant les 2-3 siècles précédents. Et donc, ils font appel à leurs suzerains. Et de proche en proche, ils finissent chez le roi de France ou chez le duc de Bourgogne ou chez le roi d'Angleterre. C'est-à-dire le féodal des féodales qui peut regrouper des forces à l'échelle d'un pays tout entier. Et le problème, c'est que ces gens-là, eux, ils n'ont pas le prélèvement direct sur leurs inféodés. Eux, ils vivent d'un petit fief qui n'est pas à la dimension du rôle politique et militaire qu'on leur demande de jouer. Alors, ils peuvent rassembler les forces des autres, mais quand même, il leur faut plus de ressources que leurs ressources féodales propres. Et donc, ils instaurent cette chose relativement nouvelle, qui est l'impôt. L'impôt d'État, sous des formes qui sont la taille, etc., la gabelle, etc. Et cet impôt, eh ben, il s'accroît à proportion des ambitions de chacun de ces seigneurs, à proportion des conflits qui commencent à se déclencher entre eux pour contrôler la France, le roi de France et le duc de Bourgogne, ou la France, le roi de France et le roi d'Angleterre, les prélèvements, on n'en est pas encore à la guerre de Cent Ans, mais c'est juste après, les prélèvements de l'État viennent se surajouter à tous les prélèvements précédents. Et quand on lit bien des gens comme Bonacieux, il montre que au début du XIVe siècle, le prélèvement d'État était de l'ordre du tiers de la production. Et donc ça s'était surajouté à ce qui existait avant. C'est-à-dire que les difficultés du système, les crises alimentaires, les crises politiques qu'il déclenche entraînent la création d'une force politique d'un genre nouveau qui est l'absolutisme, enfin qui est l'État centralisé, absolutiste ensuite, etc. Et cet État, eh bien, il se nourrit en quelque sorte en plus de tout le système qui préexistait. Et ça, il semblerait que, avec le plafonnement du système, c'est la cause déclenchante de la crise du XIVe siècle, de famine en famine, puis de peste noire en peste noire, la population est divisée par 3 ou 4. Et ensuite, la guerre, on va appeler ça la guerre des États royaux en voie de constitution, dont la guerre de Cent Ans, va régner pratiquement depuis 1400, fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Et la reconstruction du système, sur des bases qui sont connues, hein, les outils, les techniques, tout ça, on sait faire, ça va assez vite, ensuite, entre 1500 et 1600. Mais en 1600, la crise se reproduit, mais cette fois, elle n'aboutit pas, les États sont constitués, elle n'aboutit pas, il y a des disettes, et ces disettes vont durer pratiquement jusqu'en 1800, en tout cas en France. Entre le XVIIe siècle en France, on va dire, et la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un nouveau changement de système agraire, on peut en formuler l'hypothèse, s'est produit. Et ce changement de système agraire, c'est quoi ? La mise en place de systèmes qui sont toujours des systèmes à culture attelée lourde, toujours dans les régions tempérées, c'est d'abord dans les régions tempérées froides, ça sera la suite de la révolution agricole du Moyen-Âge, mais on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, ces systèmes sans jachère et culture attelée lourde, ils vont petit à petit gagner les régions méridionales qui n'avaient pas connu la révolution agricole du Moyen-Âge. Alors, en quoi ça consiste ? Les nouveaux systèmes qui se mettent en place et qu'on appelle sans jachère sont des systèmes dans lesquels les anciennes jachères ont été converties en culture fourragère. Cette révolution agricole-là, elle permet pratiquement de doubler le bétail. Vous doublez le bétail et donc vous allez doubler les produits animaux. Bien sûr, le lait, le cuir, la laine, etc. Mais vous doublez aussi la production de fumier. Et un doublement du fumier, sans simplifier à l'extrême, ça vous permet presque de faire un doublement du rendement des céréales. Donc, voyez, la révolution agricole du Moyen-Âge, elle a fait passer les rendements bruts de 5 quintaux à 12 ou 13 quintaux, les rendements nets de 3 quintaux à 9 quintaux, ce qui est énorme, hein, 3, 9, ça fait 3 fois plus. Et là, vous allez mettre non plus 10 ou 15 tonnes de fumier pour votre céréale, mais vous allez en mettre le double, 20 ou 30. Ce qui va être un vrai problème de comment l'enfouir et comment en tirer parti, d'ailleurs. Et là, vous allez avoir des rendements de céréales qui vont passer sur les bonnes paires, vers 15 quintaux, 16 quintaux, etc. Cette nouvelle agriculture, elle peut pratiquement doubler la production animale et doubler la production végétale. Mais il reste quand même un mystère agronomique insondable. D'où viennent les matières minérales deux fois plus importantes qu'absorbent désormais les céréales de la rotation triennale et qui vont permettre d'exporter deux fois plus de matières minérales à travers les récoltes et qui seront consommables par les hommes. Ça, c'est le mystère. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui va nous ramener à notre première leçon, d'où vient la fertilité minérale d'un sol. Nous sommes dans des climats tempérés, où les sols, pendant l'automne, arrêtent la végétation, pendant l'hiver, arrêtent la végétation, jusqu'au début du printemps, toujours arrêt de la végétation, eh bien ces sols reçoivent plus d'eau qu'ils en évaporent ou en transpirent, puisque la végétation est arrêtée, et donc ces sols sont des sols lessivés. Depuis les pozzoles de la taïga jusqu'aux terres rouges méditerranéennes, nous sommes dans l'espace des sols lessivés. C'est-à-dire qu'une bonne moitié des éléments minéraux qui sont disponibles dans la solution du sol pendant l'année, en réalité, ne restent pas dans le sol, mais fiche le camp par lessivage dans les nappes, par lessivage oblique. Et donc, c'est bien la reconstruction d'une biomasse pendant les périodes de jachère, là où on passait son temps à détruire la biomasse. La jachérer, ça veut dire labourer, travailler, arérer. Donc la jachère, c'est la terre travailler jusqu'à plus soif pour qu'il ne s'y développe rien. Et s'il ne s'y développe rien, c'est ce qui pousse à un maximum de lessivage. Donc, quelque part, la mise en culture de la jachère, c'est la reconstruction d'une biomasse stockant des matières minérales qui sinon auraient été lessivées et les stockant pour les remettre en circuit dans l'écosystème cultivé. Donc la mise en culture de la jachère, c'est l'arrêt du lessivage. En gros, la révolution agricole du 18e, 19e siècle, dont on n'a pas bien cerné les liens et les conséquences, permet un doublement de la production agricole, végétale et animale en Occident. Et c'est à mettre en relation avec la première révolution industrielle, parce que finalement, les surplus produits par l'agriculture, c'est ça qui permet de nourrir une population industrielle, commerçante, urbaine, de plus en plus grande importance.
C'était « De la jachère à la culture fourragère », une conférence de Marcel Mazoyer donnée en mars 2004 à la Cité des Sciences Paris-Villette. Une mise en onde signée Anne Dicci. Merci à Marcel Mazoyer et à la Cité des Sciences Paris-Villette pour ses autorisations de diffusion. Demain, un bond dans le temps, puisque d'agriculture il sera toujours question, mais en monde contemporain. nous nous intéresserons à une région du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, plus précisément d'Almeria, véritable serre à fruits et légumes hivernales pour toute l'Europe. Un miracle économique qui repose cependant sur le travail de centaines et de milliers d'immigrés, pour moitié des sans-papiers. Demain donc, rendez-vous avec Jawad Ghalib, réalisateur d'un documentaire intitulé « El Ejido, la loi du profit ».
Histoire vivante vous donne rendez-vous demain dans le journal La Liberté pour d'autres développements du sujet. Cette émission vous a été proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc avec la collaboration de Corinne Rocha, Valérie Dantan et Anne Dicci. Vous pouvez nous écrire ou podcaster nos émissions sur notre site internet rsr.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Histoire vivante est en nouvelle diffusion à 18h sur Espace 2. Vous écoutez la première, il est 16h.